Bonjour, ici Europe numéro 1.
Voici le troisième épisode de ma série sur l'année 1955. Au menu, un jeune prodige nommé Elvis. Henri Salvador ou la musique à la française. L'accident mortel d'un cheval de course en plein Paris. Et deux femmes, deux chutes libres, un record.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1955.
En 1955, un courant musical révolutionne l'Amérique, le rock and roll. Cet été-là, un titre squatte la première place du Billboard américain, c'est Rock Around the Clock de Bill Haley.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight.
Cette chanson, Bill Haley l'a sortie l'année précédente. Mais elle n'a absolument pas rencontré son public. C'est grâce à un film qu'elle refait surface. Cette année-là, le réalisateur Richard Brooks cherche un titre pour le générique de son film « Graines de violence ». Il voudrait que cette chanson représente la jeunesse. C'est son assistant qui lui suggère « Rock Around the Clock ».
C'est terminé. Bien, je suis heureux de constater que vous êtes calmé. Je m'appelle Dadier, Monsieur Dadier. La prononciation est à mes yeux un point très important sur lequel je reviendrai souvent. J'ai horreur qu'on écorche mon nom.
Ah oui, moi aussi.
Monsieur Dadier.
Ouais.
Taisez-vous. Et ôtez votre casquette quand vous êtes en classe.
Est-ce que ça vous est arrivé de vous battre seul contre 35, monsieur ?
Enlevez-la avant que je ne le fasse moi-même, vous entendez ?
Et bilan, ben à la sortie du film de Brooks, on ne parle que de la musique du générique. À tel point que Rock Around the Clock s'écoule en 1955, asseyez-vous, à 30 millions d'exemplaires. Et Bill Haley n'est pas le seul à faire parler de lui en 55, car un autre chanteur fait du bruit dans le sud des États-Unis. Il s'appelle Elvis Presley.
Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do, that's all right. That's all right. That's all right, mama. Any way you do.
Elvis Presley enchaîne les concerts depuis quelques mois. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne laisse personne indifférent, comme le raconte le spécialiste Jean-Marie Pouzin.
55, il faut voir qu'Elvis est pratiquement tous les jours sur scène, quoi. Il fait plus de 300 concerts. Ses concerts, c'est du Texas à la Floride. C'est, voilà, il sillonne tout le sud des États-Unis. Il chante sur des plateaux de camions, devant les supermarchés, devant, bon. Et donc, il sillonne et il gagne à sa cause tout le sud des États-Unis. Et à chaque fois qu'il passe quelque part, ce qui est étonnant, tous les mômes qui le voient et tous les mômes lui disent « Mais c'est ça que je vais faire. C'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. »
La réaction est partout la même. Les gens en veulent encore. La musique qu'il joue, ce qu'il chante, la manière avec laquelle il se déhanche, tout le monde en redemande.
Il passe dans des endroits où c'est surtout plutôt de la country, vous voyez. Et donc là, à ce moment-là, le phénomène se révèle. C'est-à-dire que ça n'a plus rien à voir. Il a toutes les musiques en lui, et si bien que ce qu'il fait, ça ne ressemble à rien de ce qui s'est fait précédemment. C'est un mélange de toutes les musiques, c'est surnaturel, quoi, parce que personne ne s'attend à ça, personne n'est arrivé à faire la synthèse de toutes les musiques, quoi. C'est incroyable.
En cette année 1955, Elvis Presley signe chez Sun Records, qui est une toute petite maison de disques. Elle fait ce qu'elle peut, hein, pour le distribuer, mais elle n'a pas une grande force de frappe. Quant à son manager, c'est son guitariste, et lui aussi fait ce qu'il peut. Mais bientôt, la notoriété du jeune homme dépasse les frontières du sud du pays. Elvis commence sérieusement à intéresser le Nord.
À la mi-55, déjà les maisons de disques les nationales commencent à s'intéresser à lui. Hein, c'est MGM, Rhythm Records, c'est tout ça. Parce que, bon, Sun, le studio où il a enregistré, n'a pas les moyens d'aller au niveau national. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'on va le découvrir un peu partout, alors qu'il n'est pas distribué, parce que Sun Records n'a pas les moyens de distribuer. Et donc, dès la mi-55, via MGM Records, il s'intéresse à lui, et très vite, c'est toutes les boîtes, les grosses boîtes de disques, Mercury, Columbia, Atlantic, qui s'intéressent à lui. We're right, I've left, she's gone. We're right, and I'm left all alone. Well, he's trying to tell me so, but how was I to know? Like she was not the one for me. You told me all alone. You're right, our love was wrong.
À la fin de l'année 55, un homme qui s'appelle Tom Parker, alias le colonel Parker, se rapproche du chanteur et lui propose de devenir son impresario. En parallèle, il a trouvé la maison de disques qu'il lui faut, RCA Records. Elvis est d'accord pour le suivre.
C'est arrivé à la fin 55 que le colonel Parker, ayant des connaissances plutôt chez RCA, a fini par signer un contrat et là de vraiment commencer à s'occuper de Elvis à la fin 55, signer le plus gros contrat qui a jamais existé à l'époque, quoi. C'était inimaginable, 35 000 $ plus 5 000 $ pour Elvis, enfin bon, et si vous voulez, la révolution va être en marche là au niveau national et international.
Et tout ça fait qu'à la fin de l'année 1955, tous les Américains connaissent Elvis Presley. Il faudra attendre l'année suivante pour que le reste du monde découvre le phénomène. I forgot to remember to forget her. I can't seem to get her off my mind. I thought I'd never miss her, but I found out somehow. I think about her almost all the time. The day she went away, I made myself a promise that I'd soon forget where ever met. But something sure is wrong, 'cause I'm so blue and lonely, I forgot to remember to forget. Elvis Presley avec I Forgot to Remember to Forget en 1955.
1955, on de la traconte sur Europe 1.
Pendant que les Américains se mettent au rock avec Elvis Presley et avec Bill Haley, en France, Henri Salvador continue d'explorer les rythmes sud-américains, un genre qu'il maîtrise et dans lequel il mêle allègrement jazz et bossa nova, ses deux passions. Comme ici, avec Papa Loves Mambo.
Papa Loves Mambo, Mama Loves Mambo. Et quant à grand-papa, on ne le reconnaît pas, dès qu'il entend cette air-là. Wow! Il aime le mambo, il danse le mambo. Il saute sur grand-mama, il la prend dans ses bras, et je vous jure qu'il ne s'embête pas. Il s'élance, elle bondit. Il s'avance, elle s'enfuit. Il se relance, elle aussi. Quand il veut l'enlacer, il ne sait plus où elle est passée.
La renommée de Salvador a depuis longtemps déjà dépassé les frontières. Il multiplie les tours de chant à l'étranger. Et au mois de mai 55, quand il revient à Paris, Europe numéro 1 est là, évidemment, pour l'accueillir.
Eh bien, ce soir, nous allons être très gais dans notre salle de rédaction parce que nous avons Henri Salvador.
Bonjour.
Henri Salvador, j'ai beaucoup de reproches à vous faire.
Ah, pourquoi ?
Parce qu'on ne vous voit plus. Et on ne vous entend plus, surtout.
Ah, mais c'est fini, ça. C'est fini, ce truc-là. Maintenant, je vais rester toujours, 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 je vous le jure.
Oui ?
Ah oui. Maintenant, j'ai fait le tour du monde. Voilà, je vais vous dire. Les Parisiens, au début, grâce à eux, j'ai été faire le tour du monde. Alors maintenant que je connais le monde entier, je voudrais quand même que les Parisiens se rappellent de moi. Alors maintenant, je me suis installé au Donou et je vous jure que je ne suis pas prêt d'en partir.
Alors, je signale à nos auditeurs que Henri Salvador fait sa rentrée ce soir au Théâtre Donou pour 30 représentations exceptionnelles. Exceptionnelles,
exceptionnelles.
N'est-ce pas? C'était le mot qu'il fallait dire,
oui,
je crois.
Et comme il sait si bien le faire, Salvador profite de cette interview pour raconter ses anecdotes de tournée.
Je suis allé là-bas sans parler italien. Je ne savais pas, j'avais pris des cours de langue, vous savez. Mais alors, je ne parlais pas très bien. Alors, vous savez ce que j'ai fait? J'ai emmené mon magnétophone. Et alors, j'ai fait enregistrer sur mon petit magnétophone tout ce que j'avais à dire. Et je l'ai écouté comme ça 500 à 1000 fois.
Alors,
après,
disiez,
je le connaissais par cœur.
Tagliatelle, spaghetti.
Non, je parlais. Però visto che tutti passanti di Milano vanno sempre in fretta. Vite. Tutti passanti di Milano non cammina mai pian piano. Arriva sempre in ricorsa. Sotto il bacio una borsa, una mattina suele uta, a mezzo di mangiare risotto, per in fretta, perché deve lavorare.
Oui, hein? Il faut traduire, moi, il manque des sous-titres.
Oh, c'est trop long. C'est sur les mœurs des Italiens, les Milanais, vous savez. Mm-hmm. Ils disent que les Milanais sont les travailleurs, parce qu'ils charrient les Milanais, parce que c'est le seul endroit en Italie où on travaille, c'est à Milan. Alors, il y a une chose formidable, c'est qu'on apprend beaucoup avec le public italien. C'est qu'il est assez difficile. Et on ne fait pas faire de restrictions avec les Italiens. Alors, j'ai dû tout donner pendant 8 mois et je suis revenu, j'étais mort. Complètement mort. J'ai dû travailler comme un fou là-bas.
Mais attention, hein. Sous couvert d'amusement permanent, l'artiste est en réalité un travailleur acharné. Toutes les occasions sont prétextes à faire émerger de nouvelles idées. Comme ici, avec son épouse.
Un jour, on était en voiture et on parlait de la reine Juliana, je crois, à la radio. Alors elle dit, tiens, dis donc, Juliana, si on pouvait faire une chanson sur Juliana. Et puis après, elle m'a dit, mais non, Margaret. Ça y est, je lui dis, c'est formidable. J'ai trouvé l'histoire. Et alors, ce que j'ai fait, j'ai dit, voilà, au lieu que ce soit une bergère qui rêve d'être princesse, on va faire que ce soit une princesse qui rêve d'être bergère pour se marier. Et c'est comme ça que Margaret est née. Et la chanson fait comme ça. Margaret, blottie au creux d'un valancelette,
tu gardes tes blancs moutons, pauvrette, en rêvant au gentil prince charmant. Margaret, le printemps vient fleurir ta houlette, et le vent vient te canter fleurette au bord de l'étang.
En cette année 1955, le cinéma aussi s'intéresse à Henri Salvador. Et à l'été, le voilà faisant l'acteur aux côtés d'Annie Cordy, de Jean Carmé, de Christian Duvalex et de Louis de Funès, devant la caméra de Claude Sauté. Le film s'appelle « Sourire aux lèvres » et Salvador y joue son propre rôle, celui d'un fantaisiste.
Alors, je suis au Parc de Bagatelle où l'on tourne un film qui s'appelle « Sourire aux lèvres » et qui est mis en scène par Claude Sauté. Et dans ce film, où jouent Annie Cordy, Henri Salvador, Jean Carmé et Christian Duvalex, aucun de ces quatre comédiens n'a pu me raconter le scénario.
Et je vous le raconte, moi.
Alors, Henri Salvador.
Ben voilà, c'est tout simple. Voilà, imaginez-vous que dans un pays imaginaire, il s'appelle Monte Marino, une charmante princesse ne sourit plus. Alors le roi décide de... Non, pas le roi. Une des personnalités de ce royaume décide d'aller kidnapper à Paris des gens. Des comiques.
Rire des comiques.
Pour arriver à faire sourire la princesse. Alors ils ont eu la main heureuse parce qu'ils sont allés... Ils ont kidnappé de très grands artistes.
Henri Salvador.
Annie Cordy. Christian Duvalex et Jean Carmé.
Quoi?
Jean Carmé.
Ah bon, c'était pour que tu le répètes deux fois. Oui, vois, c'est, bon, c'est bon pour moi sur l'antenne, ça.
C'est très bon pour les voilà. Et alors nous...
Salut Alex, Annie Cordy, Salvador et qui?
Jean Carmé.
Jean Carmuche.
Comment?
Carmuche.
Bon, ça va.
Alors, avec tous ces gens, il n'y arrive pas.
Alors Henri Salvador, qu'est-ce que vous chantez dans le film?
Adieu tristesse, bonjour sourire.
Adieu tristesse, bonjour. J'ai déjà vu ça quelque part, non? Non, c'est pas tout à fait ça.
Ah, vous m'étonnez, vous. Alors...
L'amour se donne, la vie sourit à ceux qui l'aiment comme une amie. Alors sans hésiter, à la vie je dis bonjour. Je dis merci à l'amour pour éclairer un ciel trop gris.
Tchamp, tchamp, c'est l'orchestre. Oui, c'est comme ça. Mais vous, attendez le film, parce que vous êtes curieux.
Dans le film de Claude Sauté, Salvador interprète trois chansons, dont la chanson-titre « Adieu tristesse, bonjour sourire ».
Adieu tristesse, bonjour sourire. L'amour se donne, la vie sourit. À ceux qui l'aiment comme une amie. Alors sans hésiter, à la vie je dis bonjour. Je dis merci à l'amour pour éclairer un ciel trop gris, pour cueillir un bout de printemps. Il suffit dans la vie, il suffit bien souvent de dire adieu tristesse, bonjour sourire, pour donner de loin un baiser. Une caresse déguisée. Il suffit dans l'amour, il suffit tous les jours de dire adieu tristesse, bonjour sourire. J'ai pris l'amour par un baiser. J'ai fait un sourire à la vie. Alors sans plus tarder, un grand amour m'a dit oui, enfin la vie m'a souri.
Mais finalement, le film Sourire aux lèvres sortira sur les écrans l'année suivante et ne fera pas beaucoup de bruit.
Et maintenant, un grand saut en arrière. Nous sommes en 1928. Le jazz band bat son plein. On allume les cigares avec des billets de mille. De cette époque extraordinaire, je vous présente un personnage exceptionnel. Voici le roi du foxtrot.
Le roi du foxtrot était l'idole de Paris. Le roi du foxtrot, les femmes étaient folles de lui. Et quand il dansait, c'était un succès. On criait bravo. Il recommençait, il était bissé. Alors il dansait de nouveau.
Extrait du roi du foxtrot par Henri Salvador en 1955.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1955.
En décembre 1955, l'hippodrome de Vincennes est le théâtre d'un drôle d'événement. Quelques heures avant le départ d'une course, un cheval s'est échappé. Il a pris la direction de Paris. Et comme à chaque fois, Europe numéro 1 est sur le coup. Dès le lendemain, le cavalier est à l'antenne pour raconter cette triste mésaventure.
Eh bien voilà, hier matin vers 10h moins 10, en allant travailler une jument sur la piste de Vincennes, Azona, le filet s'est brisé, le mort s'est brisé environ à 50 mètres de la piste. Et j'étais encore sur la cavalière à ce moment-là, et c'est là que le sort s'est joué, parce qu'au lieu d'entrer sur la piste, la jument a pris l'allée cavalière et a traversé un bouquet d'arbres. Mais alors là... En traversant le bouquet d'arbres, à ce moment-là, elle était au galop, naturellement. Mon sulky a heurté un arbre, j'ai été projeté à 5 ou 6 mètres, et la jument s'est en allée. Elle a passé derrière le vieux fort de Vincennes, elle a été jusqu'aux eaux. Arrivée au feu rouge, là, elle a fait le tour d'un pâté de maison à Saint-Mandé, et elle est repartie en direction de la Porte Dorée. Et alors là, à la Porte Dorée, aussitôt j'ai arrêté un passant qui m'a emmené lui jusqu'à la Porte Dorée. À la Porte Dorée, là j'ai perdu toute trace. Et à ce moment-là, je me suis dit ce qu'il y a à faire, c'est d'avertir le commissariat de police le plus proche pour essayer de les alerter eux. Et eux, à ce moment-là, ils auraient peut-être pu arriver à l'arrêter.
Le cavalier saute alors dans un taxi et il met à contribution le chauffeur pour trouver les gendarmes.
Alors à ce moment-là, avec le taxi, j'ai fait le plus vite que j'ai pu. Enfin, je lui ai demandé de faire le plus vite qu'il pouvait. Et arrivé à la Porte des Lilas, j'ai trouvé un quart de police qui se mettait en route. J'ai arrêté le taxi, j'ai monté avec les policiers. Ils avaient été alertés par la brigade de Saint-Mandé pour commencer, de Vincennes.
Dans sa fuite, l'animal n'a pas parcouru une énorme distance. Mais la ville est un monde hostile pour une jument.
Elle est partie à 10h moins 10 et elle a parcouru Paris. Elle a fait environ 12 km. Elle est arrivée à 11h moins 10 là-bas. Elle a dû souffrir du fait de l'épuisement pour commencer. Et quand elle s'est empalée sur le camion de ferraille, là, elle a même tordu la barre de ferraille qui lui était entrée dans le flanc. Et elle est allée mourir 200 mètres plus loin, à côté d'une église qui se trouvait à côté du boulevard extérieur, entre la porte des Lilas et la porte de la Villette.
Au micro d'Europe numéro 1, le cavalier est très ému. Embarrassé, le journaliste tente de relativiser et de changer de sujet.
Ne restons pas sur cette mauvaise impression. Dites-moi, monsieur Riault, c'est certainement une grosse perte pour sa propriétaire,
bien,
et pour vous aussi, parce que vous étiez attaché à cette
jument.
Est-ce qu'en général, vous vous attachez particulièrement à tel ou tel cheval, ou pour vous, ce sont des numéros de course?
Ah oui, il arrive certaines fois où on s'attache vraiment à un cheval, car... par exemple, j'avais une jument avec laquelle j'ai gagné ma première course à Vincennes, Ezona. Et vraiment,
c'est presque le même nom.
Oui, c'est presque le même nom. Et vraiment, elle est presque dressée comme un chien. En effet, le matin, quand j'arrive de l'entraînement, je la dételle et rentre toute seule à son box et on peut le laisser le box ouvert, elle ne cherche pas à sortir du tout.
Eh bien, pensez ce soir à Ezona et oubliez ce mauvais souvenir. Vous savez, la vie réserve des bonnes et des mauvaises surprises.
En 1955, tous les sujets se valent dès lors qu'il est possible d'en faire un reportage et de raconter une histoire. Après la cavalcade mortelle d'une jument en plein Paris, direction maintenant la forêt de Rambouillet.
Aujourd'hui, lundi de Pâques, par un temps brumeux qui rappelle plus l'automne que le printemps, selon la coutume instituée par la duchesse d'Uzès, a lieu la dernière chasse à cour de la saison en forêt de Rambouillet. Le rendez-vous était fixé au manoir de la Villeneuve, chez M. Maurice Otto. Le duc de Brissac, petit-fils de la duchesse d'Uzès, est parmi les invités. La foule des touristes s'est rangée des deux côtés de l'allée qui mène à la chapelle située face au manoir. Tout à l'heure, on va bénir la meute.
Pour ne pas perturber le démarrage de la chasse à cour, le journaliste ne peut pas trop approcher. Il choisit donc de décrire minutieusement la scène, afin de permettre aux auditeurs de vivre l'événement comme s'ils y étaient.
Pendant la bénédiction, les valets de chiens ont groupé la meute au pied des marches qui mènent à la chapelle du manoir de Villeneuve. Et M. Maurice Otto, tête nue, présente la meute au curé.
Allez, bonne chasse.
Maintenant, on groupe les chiens derrière l'église. Ils sont attachés couple par couple. Une grande lettre, signe distinctif de leur équipage, marque leur pelage. Un palefrenier aide son maître à se mettre en selle. Nous sommes au lieu-dit l'étang de la Tour, qui dépend de la commune de Vieille-Église en Yvelines, dont le maire, M. Chetteville, entouré du garde forestier et du garde champêtre, attend l'arrivée des cavaliers. Les premiers, les enfants qui sont là, ont aperçu les cavaliers, car à l'étang de la Tour, les touristes sont encore nombreux et il y a quelques campeurs frigorifiés. Monsieur Maurice Otto arrête son cheval blanc face au maire, se découvre, le maire s'avance, lui serre la main et lui souhaite la bienvenue dans sa commune.
Le camion au caillouti de mon gars. Au caillouti de mon gars, là. Au caillouti, non, au caillouti, là. Je prends tout droit.
Monsieur Otto s'était tourné vers son chef piqueux, Jolibois, et lui avait donné ses instructions pour la chasse. Maintenant, la file des cavaliers se dirige vers les bois. Je les suis. Ainsi, le premier équipage de France, celui fondé en 1871 par la duchesse d'Uzès, s'enfonce dans les taillis pour forcer le 48e cerf de la saison.
En 1955, une idée commence à faire son bout de chemin. Manger de la viande tous les jours, est-ce bien nécessaire? Et on découvre l'existence de végétariens. et toujours à l'affût, Europe numéro 1 tente d'en savoir un peu plus.
Le terme végétarien, non, viendrait tout au moins, je ne suis pas linguiste, de végétus, qui voudrait dire vigoureux, fort.
Puisque vous dites que les végétariens sont des hommes forts, quel serait le régime idéal, selon vous, d'un travailleur de force?
Eh bien, selon les conceptions habituelles, on pense que le travailleur de force doit manger beaucoup de viande. Or, c'est selon nous une grave erreur, car la viande ne contient pas les éléments de force énergétique, c'est-à-dire les hydrates de carbone. Autrefois, on considérait que les travailleurs, les plus forts travailleurs, c'était les tirassiers italiens, qui consommaient à peu près 800 grammes à 1 kilo de pain complet par jour. Le pain complet, c'est-à-dire le pain que l'on faisait autrefois dans les campagnes, le pain de ménage. Et 200 grammes d'oignons accompagnaient ces 800 grammes de pain complet. Et avec ça, un peu de lait caillé, de fromage, ça leur suffisait amplement.
Et là, le journaliste demande à la personne interviewée de donner dans les détails son menu type. Et le gars ne se fait pas prier.
Alors prenons le terrassier. Eh bien, le matin, il mangera un bon casse-croûte avec du pain complet, avec du miel, avec du fromage, même s'il le veut. C'est extrêmement énergétique. Et puis, à midi, eh bien, nous préconisons toujours le système de basconnais, c'est-à-dire de mélange de crudités. Et puis ensuite, un légume cuit, du riz complet aussi, des pâtes complètes. C'est-à-dire un plat de farineux qui lui apportera une grande richesse d'hydrates de carbone. Ensuite, il pourra continuer ou terminer avec un dessert, une pâtisserie de ménage, ou alors terminer avec du fromage, mais étant bien entendu que les fruits ont été mangés au départ, au début du repas. Nous préconisons toujours les fruits au début du repas. Et puis le soir, eh bien, il fera la même chose, il pourra manger une bonne soupe bien épaisse, bien riche en légumes, dans laquelle pourra même figurer des céréales moulues, du riz complet, toujours également, de l'avoine, etc. Enfin, ça sera.
Et comme boisson?
Et comme boisson, nous préconisons toujours l'eau. Et comme l'eau de Paris n'a pas bon goût, on met du jus de citron dedans. Et ça va très bien comme ça.
Attention, hein. En 1955, la préoccupation des végétariens n'est pas de défendre la cause animale. Eux, leur souci, c'est la santé.
Les gens qui s'adonnent au végétarisme en France, comment croyez-vous qu'ils y sont venus? Uniquement dans un but hygiénique, ou y a-t-il d'autres conceptions philosophiques ou même religieuses qui les ont poussés à ce régime végétarien?
Ah oui, il y a les végétariens par principe, mais en général, ils sont assez peu nombreux. On peut dire que la grande majorité des végétariens est venue à ce système alimentaire à la suite de maladies. Ou bien ils étaient malades, ou bien ils se rendaient compte que autour d'eux, la maladie gagnait et qu'il fallait qu'ils trouvent un autre système de vie pour préserver leur santé.
1955, Ondelat raconte sur Europe 1.
En 1955, les femmes tentent de battre des records sportifs. Et Colette Duval est l'une d'entre elles. Elle est actrice, elle est aussi mannequin, et elle se passionne pour la chute libre. Elle a déjà 250 sauts à son actif. En ce mois de mai 55, elle s'apprête à battre le record féminin de sauts en chute libre. Elle a 25 ans et le jour J, à l'aéroport de Perpignan, la foule se presse. Depuis la carlingue d'un des C3, Colette Duval s'élance à 5400 mètres d'altitude. Et à 400 mètres du sol, elle ouvre enfin son parachute. Ce jour-là, le 8 mai 1955, elle pulvérise le record du monde. Et le lendemain, elle est dans les studios d'Europe numéro 1.
Je pensais avoir plus froid. Je n'ai pas eu très froid, il faisait moins 15 dehors. Mais alors j'ai été gênée par mes lunettes. Le froid a givré mes lunettes et je ne voyais plus mon altimètre. Vous voyez, oui. J'ai donc été obligée vers à peu près 3800 mètres de jeter mes lunettes, ce qui m'a fait faire une très longue chute libre sans lunettes et vous voyez, j'ai l'œil un peu abîmé.
Oui, mais enfin ça se passera très vite.
C'est très peu de choses.
Et à quelle altitude avez-vous ouvert votre parachute?
À 400 mètres.
400 mètres.
Oui.
Et alors, il fallait, avec ces lunettes givrées, avoir l'œil fixé sur le petit tableau de bord que
oui,
vous avez devant
j'avais
vous.
Un petit tableau de bord portant deux altimètres, un altimètre de 10 000 mètres et un de 4 000 mètres, plus un chronomètre. Je regarde, vous savez, ça va vous sembler très rapide, mais on peut faire des tas de choses en très peu de temps. Je regarde le sol, je regarde mon altimètre, j'observe ma position, puisque nous avons une position de chute.
Et quelle était cette position pour ce saut?
En saut de l'ange, je saute jambes jointes, le corps très cambré, les bras en croix.
Le journaliste veut tout savoir. et il lui demande de décrire dans les détails tout ce qu'elle a ressenti pendant sa chute.
Mais à quoi est-ce qu'on pense quand on tombe comme ça en chute libre?
Oh.
Ce sont des sensations agréables, plutôt agréables?
Oh, très très agréables, ce ne sont que des sensations agréables d'ailleurs. Cette griserie, vous avez une vitesse, nous chutons environ 200 km à l'heure. Tout le monde sait ce que c'est que la vitesse, nous avons ce vent en pleine face puisque nous chutons à plat. Et ce qui nous grise encore davantage, c'est que nous n'avons aucun carénage, quoi. Le corps est à même l'air, c'est formidable.
C'est merveilleux. Et vous avez chuté pendant combien de secondes en chute libre ?
Eh bien, alors là, il y a une petite discussion. La tour de contrôle m'a chronométré 95 secondes. Mais alors, je n'ai pas chronométré officiellement moi-même. Et je pense avoir fait 2 bonnes minutes de chute libre. Vous voyez, ils ont dû se tromper, je ne sais pas, vous savez, s'ils m'ont chronométré à vue, alors ils se sont certainement trompés, puisque de 5006, c'est très difficile de voir un tout petit point noir qui tombe.
Encore une toute petite précision, vous avez ouvert votre parachute en regardant l'altimètre ou...
L'altimètre, oui.
C'est uniquement l'altimètre
qui vous... Uniquement l'altimètre qui me guide.
Le record de Colette Duval ne fait aucun doute. Mais pour que celui-ci soit homologué officiellement, il faut attendre le retour des experts. Au moment de l'interview, ceux-ci sont toujours en train de déchiffrer les mesures du barographe.
Cet appareil enregistrait toutes les altitudes de l'avion. À la montée, ça vous fait une petite courbe très lente. Et alors d'un seul coup, ça vous fait une tombée tout à fait verticale. Et après, un tout petit bout oblique qui marque la descente parachute ouvert.
Et c'est d'après ce graphique, en somme, qu'on pourra savoir si le record est battu.
Oui, alors si par malheur le barographe n'a pas fonctionné correctement, le record n'est pas homologué, je suis obligée de recommencer.
Eh bien, je pense, mademoiselle Colette Duval, que maintenant vous allez reprendre vos occupations, c'est-à-dire que vous allez de nouveau présenter les collections des couturiers parisiens.
Oui, mais avant, je vais prendre quand même quelques jours de repos parce que je suis très fatiguée.
Et quelques jours après l'interview, eh bien, Colette Duval est officiellement nommée détentrice du record français féminin de saut en chute libre en parachute.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1955.
En mai 1955, une mannequin et actrice de 28 ans, Colette Duval, vient de battre le record de France féminin de chute libre. Cet exploit donne des idées à d'autres. Durant l'été 55, une autre jeune femme tente de battre son record. Son nom est Odette Rousseau. Le 26 août, tous les yeux sont braqués sur elle. Et les oreilles d'Europe numéro 1 sont là, évidemment.
Je suis sur l'aérodrome de Gizy, près de Sens, où j'attends avec quelques camarades autour d'une voiture radio du centre d'essai en vol de Bretigny l'arrivée de l'avion à bord duquel la jeune parachutiste Odette Rousseau se trouve en ce moment et à bord duquel elle est en train de tenter son record du monde. Un record du monde qui était détenu depuis 2 ans par la parachutiste soviétique Seliver Stova, qui avait effectué 6500 mètres de chute libre en sautant de 8000 mètres et en ouvrant son parachute à 1400 mètres environ. Odette Rousseau, qui est âgée de 28 ans, est titulaire de 230 sauts. Elle est monitrice de parachutisme. C'est grâce, naturellement, au centre d'essai en vol de Bretigny qu'elle a pu prendre place à bord d'un avion qui pourra la monter, elle l'espère, à 8000 mètres et peut-être au-dessus. Elle m'a même dit avant-hier, sous le sceau du secret, 8500 mètres. L'avion a décollé depuis environ 50 minutes. Il doit se trouver maintenant presque à la verticale du terrain. Et c'est pourquoi je vais m'approcher de la voiture radio du centre d'essai en vol pour savoir quelle est la position de l'avion. Sur le terrain, on a allumé un grand feu de broussailles alimenté par du mazout de façon à signaler notre position à l'avion qui vole en ce moment très haut.
Dans les airs, Odette Rousseau s'élance à 8198 mètres. Au sol, la tension est palpable. Tout le monde a les yeux rivés sur la jeune femme et on scrute sa trajectoire.
Ok, elle vient de partir. Parachutage effectué.
Il y a 2 minutes 15 que la parachutiste a sauté. La voilà. La voilà. Elle descend. Elle descend en chute libre. Elle descend en chute libre. Elle n'a pas ouvert encore. Ça y est, le parachute est ouvert. Elle est tombée malheureusement assez loin du terrain. Et elle a ouvert son parachute dans les temps donnés. Elle est donc record woman du monde. Nous allons essayer de la joindre immédiatement.
Odette Rousseau a attendu d'être à 350 mètres du sol pour ouvrir son parachute. Et dans les premières minutes, personne ne sait où elle est passée. On craint qu'elle n'ait atterri dans Lyon ou qu'elle soit blessée.
Il y a 5 minutes environ que nous la cherchons et je crains qu'elle ne soit tombée beaucoup plus loin du terrain que nous n'avons pu l'estimer. C'est-à-dire qu'elle a dû tomber environ à 6 km du terrain. Nous sommes maintenant sur les bords de Lyon et malheureusement, elle est tombée dans l'eau. Elle est tombée dans l'eau, on vient d'aller la rechercher. Nous sommes en barque maintenant sur Lyon et les témoins de la chute de Odette Rousseau nous disent qu'elle est vraisemblablement blessée. Effectivement, je vois le parachute et Odette est couchée au fond d'un bateau. Nous allons nous approcher. Ça va, Odette ?
Quelle horreur !
Un moment.
Alors,
prendre des photos.
C'était trop, l'air ne portait pas.
Voilà.
Alors,
5 minutes, là, tout va bien.
Je me suis mis sur le dos.
Ne parlez pas, vous parlerez tout à l'heure.
Vous aviez l'appréhension d'atterrir dans Lyon.
Oui, et j'avais raison.
Odette Rousseau est immédiatement secourue. Et tout juste remise, constatant qu'elle va plutôt bien, on la presse pour qu'elle raconte quasi en direct son exploit. 8 kilomètres en chute libre tout de même.
Odette Rousseau vient de se remettre, on l'a ramenée au terrain de Gizy. Elle semble encore très fatiguée. Les parachutistes du terrain, ils sont très peu nombreux, l'applaudissent pendant qu'elle rentre dans le bureau. Vous venez de vous remettre à peine de vos émotions, mais racontez-nous en quelques mots votre saut.
Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis sortie de l'avion, il me semble, à mon alti, à moi, à 8006, je crois, n'est-ce pas ? L'air, je n'ai pas pris de choc ni rien, mais comme il y avait très peu d'air, je ne me suis pas stabilisée tout de suite. Alors, je suis passée sur le dos, comme les anciens m'ont dit de faire, et je suis restée peut-être pendant 15 secondes sur le dos. Je me suis ensuite restabilisée très parfaitement, et je n'ai pas bougé jusqu'à 400 mètres. Alors, à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais au-dessus de Lyon. Et j'ai compris tout de suite que je tomberais dans l'eau. Alors, j'ai essayé d'éviter en tirant le plus que je pouvais sur la gauche, mais j'étais empêtrée dans tout ce que j'avais sur moi, c'est-à-dire l'altimètre très lourd, le barographe que je ne voulais pas abîmer après ce saut. Et au lieu de tomber en dehors, je suis tombée dans l'eau. Là-dessus, je me suis enfoncée, j'ai pataugé un peu. Il y avait des herbes, je me suis accrochée aux herbes, mais je m'enfonçais. Et si ce marin n'était pas venu, je lui dois la vie et je le remercie, eh bien, je serais peut-être au fond maintenant. J'ai battu le record du monde de jour, certainement, et qui me manque très peu pour le record de nuit. Alors je le ferai quand même et je retomberai dans l'eau, mais je le ferai.
Bravo Odette Rousseau, merci.
Seulement voilà, malgré l'exploit accompli, le saut d'Odette Rousseau n'est pas homologué. Et tout ça à cause du lieu de l'atterrissage, c'est-à-dire dans Lyon. Et ce record du monde, eh bien c'est finalement sa concurrente Colette Duval qui le battra l'année suivante à Rio de Janeiro en sautant à 11 147 mètres. Ce jour-là, elle battra même le record masculin.
Cry the long night through. Well, you can cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. Being so untrue, well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you.
Julie London avec Cry Me a River en 1955. Qui nous amène à la fin de ce troisième épisode. Je remercie toute ma petite équipe, Valérie Nizan, Julien Pichenet, Guillaume Vassot et François Desmoulins. La suite de notre voyage au cœur de l'année 1955 dans le quatrième épisode de On de la traconte, une année.
Retrouvez On de la traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.